On aime bien les affaires d'espionnage, on aime bien tout ce qui est. Donc je te ferai signe quand pour la prochaine diapo. Une affaire d'espionnage. Et c'est vrai que dans les films, quand on parle de ça, on parle toujours de personnages très, très courageux, qui se sauvent de situations, mais impossibles, sauver in extremis par des choses extraordinaires. Mais dans notre passage ce matin, ce ne sera pas exactement le cas. Ce sera un petit peu différent, mais c'est ça qui fera que notre partage ce matin sera, je l'espère, intéressant. Alors remontons le temps de au moins 3000 ans. Oui. Là, ce n'est pas 007. 3000, allez, j'irai même 3500 ans pour être exact. Les Hébreux viennent de passer 40 ans dans le désert. Donc ça fait déjà une partie. Et ils sont sur le point de rentrer en terre promise. Ils sont la veille de rentrer en terre promise. Et c'est ça le cadre de notre passage. Vous voyez, le contexte est simple. Dieu a promis à Abraham une terre, un peuple, une descendance et une terre, après des siècles d'esclavage en Égypte. Donc c'est bienvenu d'avoir enfin une terre de repos, une terre de bénédiction, une terre pour louer Dieu. Mais c'est un cadeau un peu particulier parce que Dieu leur donne une terre, mais cette terre, elle est habitée. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu déstabilisés. C'est un peu comme si je dis à quelqu'un, je te donne une voiture, mais bon, cette voiture a un propriétaire, il y a quelqu'un dedans. Et en plus, a priori, il ne voudra pas partir. Mais c'est un cadeau que je te fais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, par précaution, qu'est-ce que fait Moïse? Il va envoyer 12 espions, et là tu peux lancer la première ou la deuxième diapo, 12 espions pour jeter un œil dans la terre de Canaan. Alors on les imagine regarder à droite à gauche, scruter un petit peu tout ce qui se passe. Juste deuxième. Et voilà, essayer de prendre le maximum d'informations possibles. C'était avant, ou peut-être après. Le maximum d'infos possibles. Les habitations, les gens, le type de fortification. Et aucun des 12 espions n'a failli à sa mission. Apparemment, tout s'est bien passé. Et alors la bonne nouvelle, c'est que les 12 espions sont unanimes. C'est un bon et beau pays. C'est un bon et beau pays où coule le lait et le miel. Donc, ça part bien. Mais une fois ce constat fait, le problème, c'est qu'il va y avoir deux écoles radicalement différentes. Vous connaissez peut-être l'histoire, probablement. La question, c'est, maintenant qu'on a vu ce pays, qu'on a constaté qu'il était bon, est-ce qu'il faut y aller? On y va, on n'y va pas. Et là, il va y avoir deux écoles vraiment différentes. Et je vous invite à suivre avec moi dans le livre des Nombres, au chapitre 13, à partir du verset 27. Alors, c'est la diapo suivante, si je ne me fais pas erreur. Nombre 13, 27, 28, et je lirai un peu plus loin. Donc, les espions reviennent voir Moïse, ils lui disent ce qu'ils ont vu en Canaan. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, ils ont ramené en plus des preuves. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et un peu plus loin, verset 32-33, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons également vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, premier débriefing de cette affaire d'espionnage. On a vu le pays, c'est un bon pays, mais face aux habitants qui sont là, on est des sauterelles, on est des rien du tout. Autrement dit, ils sont en train de dire à Moïse, on va pas y aller. On va pas y aller, on va rester là. Des gens, alors, il y a d'autres textes qui diront, ce sont des gens puissants, des hommes puissants, c'est-à-dire militairement armés, des fortifications très grandes. Si bien que, bah, comme c'est écrit, ils se sentent comme des sauterelles. On est des rien du tout, sauterelles par rapport à des géants. Et c'est vrai qu'ils respectent la logique humaine. Pour s'attaquer à une armée, il faut une armée. Pour s'attaquer à une nation, il faut une nation. Surtout pour un peuple qui sort de l'esclavage, qui n'a pas tout l'équipement qu'il faut. Ils se sentent désarmés, ils se sentent petits. Et voilà, c'est pas bien parti en tout cas. Mais c'est la logique humaine, ce compte-rendu qui est fait. Heureusement, parmi les 12 espions, s'il y en a 10 qui sont défaitistes, il y en a 2 qui vont être positifs. Josué et Caleb. Heureusement qu'ils sont là, hein, dans le récit biblique, hein, pour glorifier Dieu. Et ça, c'est en nombre 14, un peu plus loin, versets 8 et 9. Et leur compte rendu est, il part du même constat, mais ce sera différent. Donc, nombre 14, versets 8 et 9. Donc c'est Josué et Caleb qui font leur compte rendu à Moïse. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc, toujours la même abondance. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Boum. Donc si on a 10 personnes qui sont défaitistes, on en a deux qui disent, en fait, ils n'ont plus d'ombrage, c'est du tout cuit, ils sont déjà finis. Et la question que je me suis posée en lisant ces passages, la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment on peut avoir deux avis si radicalement différents? Ils ont vécu les mêmes choses dans le désert, ils ont de la résilience, ils viennent du même pays, de la même histoire, c'est le même peuple, c'est la même communauté, et ça devrait être la même foi. Pourtant, il y en a qui disent on est des sauterelles, et d'autres qui disent Dieu, il a déjà donné ce pays, et c'est du tout cuit. Mais comment c'est aussi mais opposé, comment c'est radicalement opposé? Et souvent, les manifestations de foi, elles ont cette radicalité. D'un côté, on a la raison humaine qui nous dit humainement, c'est pas possible, et de l'autre, qui disent mais avec Dieu, c'est du tout cuit. On peut dire, mais c'est facile à dire, mais comment ça se fait qu'il y a deux avis si radicalement opposés? Alors, pour répondre à la question, je vais aller un peu plus loin dans l'histoire, ce sera le dernier passage qu'on verra ce matin, parce que je pense qu'un élément de réponse fondamental, pour savoir pourquoi Josué et Caleb ils sont dans cette dynamique de dire « en fait, on a déjà gagné », c'est dans le livre de Josué au chapitre 1, où en fait, Josué est sur le point de rentrer en Canaan, puisqu'il a vu qu'il pouvait prendre cette terre, eh bien, il est promu et Dieu lui dit « c'est toi qui vas emmener mon peuple dans cette terre » et il va lui parler avant. Il va lui dire ceci, donc Josué 1 à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et dernier verset de notre lecture. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors là, il est en train... C'est comme un sportif, il est en train de booster son équipe, il dit « les gars, vous allez y aller, vous allez gagner, Josué, tu vas conduire mon peuple et tu vivras, et c'est toi qui vas gagner. » Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce passage? Dieu, il donne trois éléments fondamentaux. Le premier, il dit « prends courage, fortifie-toi ». Deuxième chose, il rappelle sa promesse. « Ce pays est à vous, je l'ai juré à vos pères, donc je ne suis pas un menteur. » Donc même s'il y a des géants dedans, il est à vous. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on dit à quelqu'un « prends courage », quelque part c'est facile. Allez, courage, allez, on y va. Dieu rajoute sa promesse, mais je vous ai promis que ce pays est à vous, je vais vous le donner. Moi j'étais très encouragé par toutes les paroles que j'ai entendues ce matin pendant la louange. C'est des paroles, on les prend, on les reçoit, ça nous impacte, ça nous interpelle. Et tout ce courage que Dieu nous donne, ces paroles, ces promesses, ça nous fait du bien. Et dans ce texte, on voit un troisième élément qui est en fait le cœur de mon message ce matin et qui fait partie, dans le judaïsme, d'une vraie discipline que parfois on perd en bon évangélique, quoique, mais en tout cas que je voulais rappeler ce matin, c'est au verset 8. Regardez le verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce passage, il y a un mot clé, il y a un mot fondamental. C'est le mot « aga » en hébreu. Médite. Médite ma parole, médite ma loi, médite ma volonté jour et nuit. Et c'est un verset qui va même super loin, parce que Dieu dit là, « Si tu médites ma parole, tu réussiras. » Si tu médites ma volonté, tu vas réussir. Alors, c'est un lien de cause à effet très fort qu'on retrouve souvent dans les proverbes. Si tu es fidèle à moi, si tu médites ma parole, c'est beaucoup plus large que le contexte de Josué. Si tu médites ma parole, tu vas réussir. Mais moi, quand je me dis qu'est-ce qui va faire que le peuple va réussir, je ne me dis pas bah, c'est une séance de méditation. Je ne me dis pas c'est pas ça qui va faire la différence. Pourtant, c'est quelque chose dont les occurrences nous prouvent dans la Bible que c'est très récurrent. Avant la réussite, il y a la méditation de la parole de Dieu. Si tu médites mes promesses, si tu t'arrêtes sur mes promesses, tu vas réussir. C'est pour ça que ce matin, quand j'entendais des paroles ici et là, je m'y arrêtais, je les laissais résonner en moi. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait quand on entend une parole qui nous touche, qui nous impacte, et en fait qui produit quelque chose en nous. Et en hébreu, ce mot « aga », « médite », c'est un mot qui couvre plus de choses. Hein. La liste n'est pas exhaustive, mais juste pour vous donner l'idée. Méditer, imaginer, dire, gémir, grogner, grommeler, pousser des cris. Mais c'est une façon d'ingérer une parole. Médite ma parole jour et nuit. Si tu fais ça, tu vas réussir. Moi, j'ai pensé cette semaine, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai pris une parole que j'ai vraiment considérée dans ma tête pour me dire, c'est de ça que dépend la réussite des projets de Dieu. Évidemment, tout dépend de Dieu. Il nous donne la foi, mais il nous dit, si tu médites ma parole, tu vas réussir. Tu vas rentrer dans mes projets. Mais il faut que tu considères ce que je te dis. Tu ne peux pas juste rentrer dans mes projets et avancer comme ça sans te dire « Mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu te l'appropries ?» Méditer, accueillir une parole, la digérer, tourner autour encore et encore, la chanter, la dire, la prier. Tu as dit, Samuel, ce matin, il y a ce verset, tu le lis avant, tu le lis après, tu fais « Ah oui, c'est vrai !» Et puis il est là, et puis... J'imagine qu'il faudra une vie, ce type de verset, pour s'approprier, pour tourner encore et encore, pour que cette parole devienne vivante en nous. Et en fait, en y pensant, je me dis, la méditation, c'est un petit peu, alors c'est peut-être pas le meilleur terme, un peu comme un laboratoire d'expérience. C'est un espace, un sanctuaire qu'on va créer de temps en temps, quelques minutes, pas des heures, c'est quelques minutes, de temps en temps, pour nous rappeler des promesses de Dieu. Et dans cet espace qui va être créé, où on va méditer ces paroles, la foi va grandir, va se consolider. Et ce qui est mystérieux, c'est que la Bible nous dit même, de cette méditation, la réussite vient. Les prophètes ont parlé de cette expérience de méditation comme une expérience culinaire aussi également. J'ai quelques passages en Jérémie 15, 16. Tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Le psaume 19, les ordonnances de l'Éternel sont plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ils ont bouffé les paroles, ils ont mangé, ils les ont ingérées. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ils ont vécu une expérience qui est extraordinaire. C'est pour ça que je parlais, eux ils parlent de culinaire, de cuisine, de laboratoire, c'est peut-être pas un mot très adapté, mais c'est pour dire que dans un espace qu'on crée pour la méditation, quand on s'arrête sur les paroles que Dieu nous a données, ça peut être des prophéties, ça peut être des paroles bibliques, il y a quelque chose qui se passe en fait à ce moment-là. Non seulement ça déclenche la réussite des projets de Dieu, mais en plus il y a quelque chose qui se passe dans notre foi, il y a quelque chose qui grandit, qui se consolide, il y a un truc surnaturel, c'est complètement surnaturel. pour ça qu'on retrouvera de façon récurrente dans les proverbes, en Josué, si tu médites ma parole, tu vas réussir. Si tu médites ma parole, tu vas réussir. Alors évidemment, cette méditation dans la Bible, elle va dans les deux sens. Quand on regarde les occurrences du mot méditer, il y a ceux qui méditent le bien et ceux qui méditent le mal. Le méchant médite le mal et il fait le mal. Le juste médite le bien et il réussit avec Dieu. Et c'est vrai qu'en y pensant, je me dis, mais est-ce que je médite beaucoup la parole? Mais je me suis rendu compte aussi que je médite aussi parfois le mal. Quand je me couche le soir, si j'ai des mauvaises idées, que je suis découragé, ben c'est de la méditation aussi. J'accueille des mauvaises paroles, je les fais grandir, elles prennent de la place, ça vit en moi, ça me décourage, ça me fatigue. Et je me dis, en fait, on est tous des champions de la méditation dans un sens ou dans l'autre. Ça va dans les deux sens. Mais Dieu nous dit, si tu prends un espace que tu crées pour méditer ce que je t'ai dit, il y a quelque chose qui va se produire qui est surnaturel, qui est complètement surnaturel. Et ça va amener la manifestation des projets de Dieu. S'arrêter, penser aux promesses. Et c'est là où on voit que c'est vraiment de Dieu, parce que ce n'est pas nos propres forces. Méditer ses paroles, c'est une façon de lui rendre gloire, et c'est là qu'il agit. Alors je ne veux pas ce matin faire de formule magique ou autre, hein. Je ne dis pas que c'est automatique. Mais je dis que quand on prend un temps pour s'arrêter, pour considérer les promesses de Dieu, les paroles, tout ce qu'il nous a dit, peut-être les prophéties qu'on a reçues il y a des années. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu d'un sac que j'avais quand j'étais à Hawaï il y a 10 ans, un papier avec une des premières prophéties qu'on m'avait données. Ça m'a fait du bien. Je me suis arrêté dessus, je me suis couché avec. Je dis, ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que c'est la vérité, ça nous rend joyeux, c'est tellement extraordinaire. Et puis, il y a un autre effet de la méditation, au-delà de, dans cet espace surnaturel, de produire la foi, de la consolider, c'est de nous amener aussi ce que je pourrais appeler une bonne santé émotionnelle et une bonne santé spirituelle. Et ça, on le voit dans le psaume 1, juste les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Et conséquence de la méditation, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais on a vraiment cette image de calme, c'est tranquille, un arbre près d'un cours d'eau, il n'est pas excité, il est posé, il est tranquille, ses émotions sont bien alignées avec ce que Dieu lui a dit et il porte du fruit. Il y a vraiment quelque chose là qui est beau. Et toujours cette idée récurrente dans les proverbes, dans les psaumes, quand il médite, tout ce qu'il va faire avec Dieu va réussir. Tout ce que Dieu va lui demander de faire, il va y avoir de la réussite. Et on a toujours cette image de paix, de sérénité, de calme, de tranquillité. Alors je trouve que, pour faire un lien avec peut-être nos contextes, la méditation, c'est à la mode aujourd'hui. Il y a plein de gens qui disent, moi je médite, ci et ça. Et en creusant un petit peu, surtout la méditation orientale, on se rend compte que ça consiste surtout à se vider l'esprit et à disparaître dans le grand tout. Hein. C'est un petit peu l'idée. Pour ne plus souffrir, on disparaît. Et c'est vrai que moi, je me dis, tiens, j'ai envie de parler de la méditation biblique. Alors ça fait un peu un titre, ça peut sembler ésotérique des fois, mais la méditation de la parole à des gens en disant, te vide pas l'esprit, c'est pas la solution, parce que les mauvaises pensées reviennent, mais remplace-les par des bonnes paroles et vois ce que ça produit en toi. De savoir que Jésus, il est mort pour toi, qu'il t'a sauvé, qu'il est ressuscité, qu'il inaugure un nouveau royaume. Qu'est-ce que ça produit en toi? Médite-le, pense-le. Tu vas voir, ça va produire une foi en toi, ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, évidemment, méditer dans le terme, dans le mot hébreu, c'est beaucoup plus fort que juste laisser résonner des choses. Ça peut être les dire, les chanter, pousser des cris. Ça peut être plein de choses différentes, mais c'est différents moyens d'expression pour s'approprier, tourner autour encore des promesses que Dieu nous a données. Ça, c'est quelque chose, quand on s'y arrête, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, le grand miracle des temps de méditation que Dieu nous demande d'avoir pour réussir dans ce qu'on entreprend, c'est de se dire que c'est là que ça produit une foi toute particulière, ça produit des choses. La foi grandit dans les temps de louange ensemble, dans les temps d'église ensemble, dans les activités ensemble. Quand on prie, comme dit Jésus, qu'on s'enferme aussi tout seul dans sa chambre, et quand on médite la parole. Moi, je pense à tous ces passages où Jésus, il va en haut de la montagne et il prend un temps privilégié comme ça. Parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. À chaque fois que Jésus, il est challengé, il s'isole, il réfléchit. Et là, il y a une puissance, mais c'est très très puissant, à tel point que Dieu nous dit, Si tu médites ma parole, tu réussiras dans tes entreprises. Pour Josué et Caleb, qui ont considéré les promesses de Dieu et qui se sont dit en fait elles sont vraies, ces méditations, ça ne leur a pas donné plus de muscles. Ça n'a pas enlevé l'épreuve. Mais ça les a amenés à considérer que c'était possible. Dieu a agi. En fait, ça a amené la manifestation de la puissance de Dieu pour le peuple. C'est ça qui est extraordinaire. Et surtout, je me dis, si Dieu nous dit que la méditation marche, c'est puissant pour amener les projets à réussir, ça veut dire qu'elle est d'autant plus pertinente quand les projets ne réussissent pas encore. Quand il y a des temps d'épreuve, quand il y a des temps de souffrance, quand il y a des temps difficiles, on s'arrête, on se dit, attends, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me l'approprie? Est-ce que j'ai envie de digérer, de le faire mien? Et c'est vrai que même quand on passe une épreuve, on s'arrête, on médite la parole, même si l'épreuve n'est pas réglée, ça fait un bien extraordinaire. On aligne nos émotions avec Dieu, avec ses promesses, on se dit ça va aller et on va réussir dans nos entreprises avec lui. C'est quelque chose de très puissant. Souvent l'ennemi joue sur le timing, il nous donne plein de paroles, comme des pop-up, constamment plein de paroles. Vite, il faut aller vite, on fait des erreurs, on trébuche. Dieu dit, on se calme, tranquille, comme cet arbre du psaume 1, médite, tranquille, tranquille. C'est moi qui suis aux commandes. Je pense que ce monde a terriblement besoin de la méditation de la parole de Dieu. Et nous en avons toujours besoin encore et encore et encore. Prendre un temps, quelques minutes, lire une parole. Moi, des fois, je prends sur mon téléphone la parole du jour. Je la lis, je laisse un temps de silence résonner. Des fois, je prie, des fois, c'est un chant. Il peut y avoir mille façons de le faire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de prendre un petit moment comme ça? Ça fait vraiment du bien. Je crois que Dieu veut nous faire du bien par ces temps de méditation, dans ces espaces qui produisent la foi, qui la font grandir, qui la consolident. Parce que c'est là que ça se passe. Et vraiment, si je vous invite à relire les psaumes, les proverbes, vous trouverez toujours quelqu'un, même les prophètes qui disent en fait, tes ennemis sont devant moi, moi je médite ta parole. Mes ennemis sont en face de moi, ils me veulent du mal, je médite ta parole, je suis droit dans mes bottes, ça va aller. Il y a toujours cet aspect-là. Et puis, le plus grand miracle de la foi chrétienne, c'est que de toute façon, dans ces espaces où on médite sa parole, ses promesses, tout ce qu'il nous a dit, en fait, on n'accueille pas seulement les paroles que Dieu nous donne, on accueille son auteur. On accueille Dieu lui-même en nous pour vivre un temps d'intimité extraordinaire. Et c'est là sa gloire. C'est ça, c'est la rencontre d'une personne dans cette méditation, au-delà de ses paroles. Derrière, il y a quelqu'un qui a envie de nous rencontrer, de nous prendre dans ses bras, de nous dire que ça va aller, de guérir nos blessures, de nous faire du bien et d'amener la réussite dans toutes nos entreprises. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces passages. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis enfin, il y a cette notion dans ce psaume 1, 2, du plaisir dans la loi de l'Éternel. Le plaisir à lire la Bible, le plaisir à lire une parole inversée. C'est du plaisir. Pour les prophètes, c'était du miel. Ils l'ont pris, ils se sont fait plaisir à faire ça. Ce n'était pas un effort. Et ça leur a fait du bien. Alors pour terminer, j'aimerais juste citer quelques versets, juste quatre versets qui parlent justement de la méditation. Le psaume 77:7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Psaume 119:23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. J'aime bien cette posture. Il y a des gens puissants devant moi qui me veulent du mal. Moi, je médite tes statuts. C'est la plus grosse force qu'il a. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Vous voyez, c'est souvent la méditation face à quelque chose qui peut être difficile. Et puis, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça, je vous l'ai dit, c'est une discipline dans le judaïsme qui est très forte. Méditer la loi. Qu'est-ce qu'il a dit? M'en rappeler. Que ça produise en nous quelque chose de surnaturel qui sera propre à chacun de nous. À chacun de nous. J'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ta parole qui est un cadeau, qui est un trésor. Et tu nous dis que si on la médite, on va y réussir dans toutes nos entreprises, dans tous tes projets dans lesquels tu veux qu'on rentre. Alors Seigneur, on veut s'arrêter sur toutes les paroles qui ont été données ce matin, toutes les paroles qu'on a reçues peut-être il y a quelque temps déjà, des prophéties, des paroles d'encouragement, toutes ces choses qui sont des trésors, qui sont du miel. Et Seigneur, on ne veut pas juste les entendre, on veut les manger, comme disent les prophètes, on veut les ingérer, on veut les digérer, on veut en faire le tour, on veut les chérir, ces promesses que tu nous donnes. Seigneur, je te demande de faire grandir la foi en nous, dans tes promesses, faire grandir ta parole, notre plaisir à ouvrir ta parole, mais pas juste la lire, Seigneur, la méditer. Que cette méditation soit une expérience formidable, qu'on puisse continuer à la méditer, en faire le tour encore et encore et encore, pour te rencontrer, toi, de façon surnaturelle, Seigneur. Tu nous rencontres de façon surnaturelle dans cette méditation. Et vraiment que toute gloire te soit rendue dans tous ces moments qu'on va passer, dans ces temps où on médite le jour et la nuit ta parole. Amen.